debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le monde, femmes esclaves, méprisons nos entraves. Tabou, tabou. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Brisons nos entraves, debout, debout. Levons nos femmes esclaves et jouissons sans entrave, debout, debout, debout.
Bonjour, vous êtes sur 90.7 RCN avec le collectif Debout, collectif féministe mixte, nancéen et anticapitaliste. Et moi c'est Patricia.
Moi c'est Katia.
Alison.
Maya. Alors, pour revenir sur l'émission du mois dernier, donc en avril, on vous parlait de la loi travail et de ses conséquences. Et on avait invité Minel du réseau Salariat pour parler du projet de salaire à vie. Alors aujourd'hui encore, nous allons aborder la question du travail, travail reconnu ou non, dégradant ou non, utile ou non, et de ses limites. Nous allons ensuite aborder le projet de revenu inconditionnel. Le revenu inconditionnel est-il une réponse aux abus et aux pressions du travail salarié? Est-il une garantie pour une vie digne? Et quelle différence entre le revenu inconditionnel et le salaire à vie? Pour préparer cette émission, nous avons interrogé des militantes de l'association syndicat Sud Retraités, du collectif de lutte contre la précarité qui s'appelle La Crise, et du réseau Salariat, donc l'association d'éducation populaire qui milite pour le salaire à vie.
Et sinon, bah, en fait, on va se poser la question, bah, il n'y a pas que le travail dans la vie au final.
Alors le travail est-il toujours occupé? A-t-il toujours occupé une place dominante dans la société?
Bah non, au niveau anthropologique, on se rend compte que les études montrent que les premiers humains, les premiers hominidés, homo sapiens, ils s'accordaient 2 heures par jour au travail pour assurer leur subsistance, rien de plus.
Et ils faisaient quoi de leur temps alors?
Bah, ils se consacraient davantage à la communication au sein de leur communauté, ils avaient conscience de la mort qui les poussait à être proches les uns des autres, et ils avaient aussi des occupations artistiques, il suffit de voir les peintures rupestres dans les grottes.
Quel a été le déclenchement majeur de cette obsession au travail?
Le capitalisme, avec l'industrialisation, ça a été vraiment le pire des maux de la société, puisqu'il a conduit à la production de masse au détriment toujours des plus pauvres, qui passaient 12 heures par jour à travailler pour le profit des plus riches, tout simplement. Et cette volonté de rendement, c'est la clé du problème. Aujourd'hui, on se satisfait d'avoir obtenu de ne pas dépasser 7-8 heures par jour de travail.
Mais y a-t-il d'autres modèles possibles?
Oui, si on délaisse le profit pour se centrer sur l'épanouissement personnel, oui, il y a d'autres choix possibles d'activités non salariées, mais qui nous permettront de nous sentir quand même utiles dans la société. Et puis la place des loisirs ne doit pas être négligeable. C'est quand même la quête aussi du bonheur humain. On n'a qu'une vie sur Terre.
Et c'est sur quoi se base ta réflexion?
D'une part sur les travaux d'un écrivain qui est la figure de la critique de la société industrielle, Ivan Illich. Il a notamment écrit un ouvrage qui s'intitule « La convivialité ». Il a réfléchi au fait que l'humanité est devenue esclave de la machine. Son rôle est limité à faire fonctionner une machine qu'on achète ensuite. On travaille, on s'endette pour acheter la voiture qui va nous permettre d'aller au travail. Et tout de suite, la chanson « J'aime pas travailler » de Zoufri Maracas.
Travaillez plus, gagnez plus, vous aurez moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, vous aurez moins d'argent.
J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas travailler du tout. Moi, ce que j'aime, c'est glander. Quand je glande, faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs je me fume un pétard. J'aime pas travailler, patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça bouge sudain.
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas travailler du tout.
Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si le droit redouble l'effort, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas ouais, travailler du tout. Et si un jour, un beau matin, je dois m'en aller au turbin, je prendrai mes jambes à mon cou et je partirai pour un Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République d'Agan. Travailler sera interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banque, ce sera un pays sans banque. Et tranquille sous mon arbre à joint, je n'aurai plus qu'à lever la main. Je ne travaillerai jamais debout, pensez pas me faire bosser assis, encore moins faire taffer à genoux, je ne travaillerai plus du tout. Finalement, je ne travaille pas, papa. Je ne cherche même pas d'emploi. Et je reste à vivoter au soleil sans me préoccuper. Au soleil sans me préoccuper. Au soleil sans me préoccuper.
Donc vous êtes toujours sur RCN 90.7 avec le collectif Debout féministe, mixte, nancéen et anticapitaliste. Et on va travailler donc de la, parler de la remise en cause du travail actuel. Donc, quel est le discours actuel sur le travail ?
Aujourd'hui, le travail salarial, reste le moyen principal de s'intégrer dans la société. C'est pourquoi que la chimère du plein emploi ne se perd pas dans les discours politiques et syndicaux, malgré le chômage des masses. Le discours « gagner plus pour consommer plus », consommer plus pour relayer la croissance et une aberration écologique.
Mais il y a de moins en moins d'emplois.
Dans la destruction de l'emploi, l'informatisation et l'automatisation jouent un rôle important. À la place de passer par un interlocuteur, les personnes sont de plus en plus demandées de traiter eux-mêmes leurs données directement en ligne ou à l'aide des automates. Ceux-ci s'insèrent dans tous les secteurs. Ils font savoir qu'en général, plus la moitié des emplois sont automatisables. Ainsi, il y a des automates par exemple dans les banques, dans l'administration, dans les grandes surfaces et dans les transports. Ils ont comme avantage qu'ils ne se mettent pas en grève, qu'ils ne demandent pas de salaire et qu'ils travaillent 24 sur 24. Les automates ne remplacent pas que des tâches simples, mais également des tâches intellectuelles. L'utilisation de l'algorithme dans les systèmes banquiers est un exemple.
N'est-ce pas un rouage du capitalisme tout ça ?
L'automatisation permet de produire autant avec moins d'emplois ou bien plus avec autant d'emplois. Pour garder des emplois, nous sommes donc invités de consommer. Combien de temps notre planète va encore pouvoir supporter notre surconsommation ?
Alors faut-il lutter pour des emplois ? Et si oui, comment faire pour garder des emplois ?
Faut-il consommer toujours plus pour sauver des emplois ? Ça, c'est une bonne question. Ou bien faut-il supprimer les automates et interdire l'informatisation, etc. pour garder des emplois ? Bon, j'ai envie de dire, en soi, la possibilité de pouvoir supprimer des emplois qui sont peu intéressants car répétitifs et de les remplacer par des automates peut être considérée comme un progrès. Mais sous nos conditions actuelles, c'est un progrès dangereux.
Pourquoi c'est dangereux ?
Dangereux parce qu'un revenu monétaire est toujours lié au salariat. Soit il faut avoir un poste salarial, soit il faut être digne de recevoir un moyen de subsistance.
Comment ça, digne ?
Digne veut dire soit être dans l'incapacité de travailler, soit être prêt d'accepter n'importe quel boulot pour s'en sortir. La pression de se trouver au chômage pousse les gens à accepter des emplois avec l'unique raison qu'ils ont besoin d'argent. Ainsi, des postes dégradants ou des emplois toxiques et inutiles sont acceptés.
C'est quoi un emploi toxique ou dégradant ?
Bah, pour donner des exemples, les travaux toxiques sont le nucléaire, la chimie, les secteurs automobiles. Comme dégradantes, sont souvent considérés les ramassages des ordures, conducteurs de bus, les travaux dans les bâtiments et toutes autres tâches répétitives. La pression sur l'acceptation de l'emploi et des conséquences désastreuses pour l'environnement, car la surproduction et la surconsommation ne sont pas mises en cause.
Alors quoi faire ?
Ce qu'il faut cesser, c'est de se polariser sur l'emploi. Pour être libre de choisir une activité qui plaît et qui fait du sens, il faut un revenu ou un salaire qui n'est pas une source de récompense de son activité. Il faut une indépendance entre activité salariale et revenu ou salaire. Il faut une rupture complète avec le dogme selon lequel seul le travail peut procurer un revenu. C'est pour cette raison pourquoi nous parlons de revenus inconditionnels ou salaire à vie aujourd'hui.
La fin du travail obligatoire, n'est-ce pas la fin du travail tout court ?
Plutôt que de salariat, on peut parler d'activité. Spontanément, nous sommes tous ou toutes des actives. Il n'y a pas à avoir peur que les gens ne foutent rien.
Nous allons passer à la rubrique témoignage.
C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
La réalité du travail est encore plus dégradante pour les femmes migrantes et sans papiers, qui subissent ce qu'on appelle la double violence. La double violence, c'est l'imbrication des violences sexistes et des violences étatiques. C'est le témoignage que nous avons choisi aujourd'hui. Extrait de la revue Nouvelle Question Féministe, il a été recueilli et traduit par Magdala Rosende. Nous allons vous lire un extrait du témoignage de Maria, née en Colombie, exilée en Suisse depuis 7 ans. Elle a fui la Colombie car elle a été menacée de mort après l'assassinat de son mari. Sa fille n'a pu la rejoindre que 4 ans plus tard. Maria milite activement dans un groupe non mixte, le groupe femmes du collectif de travailleuses-travailleurs sans statut légal de Genève qu'elle a contribué à fonder. Précisons qu'étant donné le coût de la vie en Suisse, le seuil de pauvreté est de 2 219 francs par mois pour une personne seule, soit 2 000 euros. Une travailleuse sans papier.
La sœur cadette de la femme chez qui nous vivions, mon amie et moi, au début de notre séjour, était une femme terrible. C'était une très jeune femme, elle avait 22 ans. Quand je suis arrivée en Suisse, j'en avais 27. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse aller jusqu'à ces extrêmes. Un jour, elle me dit « Je t'invite à manger avec mon ami, un homme qui m'emmène dans des restaurants très chics. » J'ai accepté. Cet homme nous a conduites dans le restaurant d'un grand hôtel. J'étais un peu préoccupée. Avec mon mari, j'avais voyagé et j'avais fréquenté des grands restaurants et hôtels, et celui-ci était hors de portée pour moi. J'ai dit à cette femme de demander à son ami s'il avait du travail pour moi. C'était un homme d'affaires et je savais qu'elle avait un emploi de nettoyeuse dans un de ses bureaux. Il m'a proposé un travail de nettoyage dans un autre bureau et m'a convoqué pour la semaine suivante. Cette femme m'a donné l'adresse et m'a montré où c'était. Je voulais qu'elle m'accompagne, mais elle a répondu « Non, vas-y seule ». Et je me suis rendue à cette adresse. Cet homme m'a ouvert la porte et je l'ai salué, puis je lui ai demandé de me montrer ce que je devais faire. Une fois dans son bureau, il a fermé la porte à clé. J'étais très nerveuse, le bâtiment composé de bureaux était énorme. Cet homme m'a dit de m'asseoir et m'a demandé si je voulais boire quelque chose. J'ai répondu par la négative et je lui ai redemandé de me montrer le travail. Puis il s'est assis à mes côtés et a commencé à me toucher. Je lui ai dit « Que faites-vous ? Je suis venue pour travailler. » Alors il a sorti une liasse de billets et j'ai répété « Non, je viens travailler. Mon ami m'a dit que je veux nettoyer les bureaux. » Il insistait, alors je lui ai demandé, je lui ai donné un coup de pied et je ne sais plus comment, très bien, je suis allée jusqu'à la porte mais elle était fermée à clé. C'était un homme d'âge moyen. Je lui ai dit « Vous êtes plus fort que moi, mais je n'aimerais pas vous faire du mal. Je ne vais pas me laisser faire. S'il vous plaît, laissez-moi partir. » Il me montrait des billets de 1000 francs, soit 641 euros. Imaginez-vous des billets de 1000 francs et moi sans travail, sans rien ? J'étais désespérée. Je poussais la porte, je tapais contre la porte. Mais c'était le week-end, il n'y avait que des bureaux et il n'y avait probablement personne dans les parages. Jusqu'à ce que je ne sais plus si c'était une insulte ou quoi, car je ne comprenais pas le français, je crois qu'il m'a injuriée et il a ouvert la porte. Mais avant d'ouvrir la porte, il m'a dit en espagnol qu'il avait payé son amie, la sœur de la femme chez qui je logeais. Elle avait reçu 500 francs, 320,50 euros, pour mon envoi chez lui. Quelque temps après, elle m'a présenté à un autre homme, un Italien, avec qui elle travaillait. Cet homme m'a engagée pour distribuer des prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres. Elle avait probablement trouvé un emploi meilleur et m'a laissé ce travail. Cet homme m'a ensuite recommandé auprès d'une patronne d'hôtel pour qui je travaille encore aujourd'hui. J'avais vu une annonce dans le journal. Il m'a emmenée à l'adresse indiquée et m'a recommandée. Chaque fois que je rencontrais un nouveau patron, je lui demandais des recommandations ou lui demandais s'il avait connaissance d'un autre emploi.
En quoi consistait ton travail dans cet hôtel ?
Il s'agissait d'un travail de nettoyage. Je travaillais tous les matins, du lundi au samedi, en plus de la distribution des prospectus publicitaires le soir. Mais ensuite, ce patron a commencé à me harceler. Il disait qu'il voulait coucher avec moi et que j'avais obtenu un autre emploi grâce à lui. Une fois, cet homme m'a coincé dans l'entrepôt où j'allais chercher les piles de prospectus avec l'intention de me violer. Il m'a fait mal, mais j'ai réussi à m'enfuir et j'ai cessé de travailler pour lui du jour au lendemain. Comme je venais de commencer ce travail de nettoyage à l'hôtel, je ne suis plus retournée chez lui. J'ai raconté cette histoire à ma patronne. J'étais seule, je ne connaissais personne à qui demander de l'aide et surtout, je ne pouvais pas le dénoncer. Cet homme m'a ensuite menacée de représailles. J'imagine qu'il n'était pas facile de trouver rapidement une personne pour me remplacer. Il m'a suivie à plusieurs reprises dans la rue quand je me rendais à l'hôtel. Puis un matin, la police est venue me chercher sur mon lieu de travail. Cet homme avait dénoncé ma patronne pour emploi de main-d'œuvre illégale. Quand j'ai été arrêtée, on m'a emmenée au poste de police. On m'a demandé de me déshabiller complètement. On a inspecté plusieurs parties de mon corps pour savoir si j'étais toxicodépendante. C'était une véritable humiliation. Je me souviens que je leur disais « Mais pourquoi est-ce que vous me fouillez de cette manière ? Est-ce que vous ne voyez pas que je travaille ?» À cette époque, j'avais des blessures aux doigts des mains. Je me blessais en mettant des prospectus dans les boîtes aux lettres et puis j'avais des callosités. Heureusement, la police ne m'a pas donné d'ordre de sortie et je n'ai pas été expulsée.
Alors pour comprendre la situation des sans-papiers, on vous invite à lire « La voix des sans-papiers ». Donc c'est le journal d'un collectif de lutte autonome. Alors leur lutte, c'est la liberté de circulation et d'installation dans tous les pays du monde pour tous les migrants économiques, climatiques et politiques. Et je vais vous lire les premières lignes du dernier numéro. L'illusion du pouvoir, la guerre continue. Quelle guerre ? La guerre aux migrants du sud du monde. Quel pouvoir ? Celui des États. Et leur illusion de tout pouvoir, même contrer le cours de l'histoire et stopper les mouvements de population, fuyant les conditions économiques, politiques, climatiques, créées chez elles par le nord du monde. L'illusion de se croire tout permis, y compris le droit de livrer la guerre au droit à la vie de millions d'hommes, de femmes, d'enfants, de pays ravagés par la misère et les crises, par les conflits armés et économiques, exportés par les pays du nord, partout dans le monde. Voilà, leur mot d'ordre, c'est « Nous sommes tous des réfugiés économiques ».
Et pour illustrer tout ça, on va vous passer à la chanson « Fille d'ouvrier » d'Agnès Bill.
Allô vermeille, brune ou blonde, bébé mignon, dans les larmes, ça vient au monde, cher à guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine, joli bétail, du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur de ruelle, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça devient belle de nuit, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute et un beau soir, pour deux balles, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse, honteuse, un soir ça se fait prendre par la police, cher à flicard. Ou bien sans papier, ça travaille dans les bas-fonds, alors ça finit sur la paille, cher à prison. Malade, souffrant le supplice, claquant des dents, ça termine dans un hospice, cher à savon. Bien sûr, ça se regarde à la loupe, joli modèle, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Patron, banquier, politicien, c'est bien fini, quand vous tomberez entre nos mains, cher à fusil. Pour que chaque chien sur votre ogne pisse à l'arrêt, nous leur laisserons vos charognes, cher à fumier.
Vous êtes bien sur RCN 90.7 avec le collectif Debout, collectif féministe mixte et anticapitaliste de Nancy. Et nous allons passer à la rubrique « Être féministe, c'est quoi ?»
Vous n'êtes pas féministe, mais vous voulez un travail égal, un salaire égal ?
Marcher des soirs de la rue sans avoir peur ?
Ne pas être jugé sur votre apparence ?
Que les corps des femmes ne soient pas un argument publicitaire.
Vous n'êtes pas féministe, mais vous voulez partager les tâches domestiques ?
Ne pas être défini par votre statut martial ?
Marital.
Que les hommes arrêtent de se tromper avec certitude et les femmes d'avoir raison avec hésitation.
Ne pas subir la dictature de la beauté.
Vous n'êtes pas féministe, mais vous voulez que les violences faites aux femmes cessent ?
Un accès égal aux métiers, postes et responsabilités.
Choisir d'avoir un enfant ou non.
Ne plus entendre de blagues sexistes.
Vous n'êtes pas féministe, mais vous voulez être considérée comme un individu et non comme un corps.
Une sexualité libre et consentie.
Débattre avec un homme sans être coupée.
Eh bien, en fait, si, vous êtes féministe.
Vous vous demandez quel rapport avec le travail ?
Toutes ces inégalités empêchent les femmes d'être à égalité avec les hommes dans le monde du travail. Les discriminations sur l'apparence et les compétences, les violences et la peur des violences, le manque de liberté et le statut domestique. Actuellement, la France est classée 132e sur 145 pays en matière d'égalité salariale. Donc non, l'égalité est encore loin d'être là, et un très bon exemple est le travail invisible.
Et oui, c'est ce que nous allons voir maintenant, le travail invisible des femmes. Parce que tout travail mérite salaire.
Eh bien, un travail semble échapper à cette règle, le travail domestique, qui est gratuit. Alors le travail domestique, c'est tout le travail à domicile qui pourrait être accompli par autrui, ce qui est ménage, entretien du linge, couture, jardinage, bricolage, éducation des enfants, soins aux animaux, etc. Ce travail-là n'est pas rémunéré. Mais par contre, quand on embauche autrui pour le faire, eh ben, il est payé au moins au SMIC.
Qui effectue ce travail non rémunéré ?
Ce sont majoritairement les femmes, et surtout concernant le ménage et les soins aux enfants et aux proches.
Mais le partage des tâches est plus égalitaire dorénavant, non ?
Alors, il y a une étude de l'INSEE qui est intitulée « Femmes et hommes, regard sur la parité » qui montre un paradoxe. Parce que d'un côté, il y a une réduction de 40% en 25 ans de l'écart de temps passé aux tâches domestiques entre les femmes et les hommes. Mais en même temps, les hommes n'y consacrent qu'une minute de plus, donc la même durée qu'en 1986.
Bah, quelle est l'explication alors ?
Alors ces chiffres sont trompeurs. Voilà. En fait, l'écart s'est réduit, mais pas du fait d'une plus grande participation des hommes, mais parce qu'aujourd'hui, les femmes passent moins de temps aux tâches domestiques. 4 heures quotidiennes, soit une heure de moins qu'il y a 25 ans. Donc une évolution qui est principalement due aux équipements ménagers plus performants. Mais bon, les résultats de cette étude statistique montrent davantage des progrès technologiques accomplis qu'une évolution des mentalités masculines. Parce que si on regarde les statistiques dans les couples hétérosexuels, même lorsque la femme a un emploi et l'homme est sans emploi, eh ben c'est la femme qui fait le ménage. Et toutes ces inégalités domestiques augmentent avec le nombre d'enfants.
Et qu'est-ce qui explique cette inégalité dans le travail domestique ?
Alors, tout se passe comme si le travail domestique était imposé aux femmes, comme une partie d'elles-mêmes, de leur identité. Alors, imposé compte tenu de l'ampleur des activités domestiques, dont la valeur économique et symbolique est considérable.
Ce travail domestique est nié, pourquoi ? Sa valeur est-elle regardée par les économistes comme improductive ?
Eh bien, oui. Parce que la valeur en économie s'acquiert par le fait de passer par le marché. Donc paradoxalement, y a une conséquence bizarre quand on comptabilise le travail domestique en économie. Parce qu'on a calculé en effet que si tous les hommes qui emploient des femmes de ménage les épousaient, le PIB chuterait en moins de temps qu'il faut pour le dire.
C'est ce qu'on appelle le travail invisible donc.
Oui, le concept de travail invisible donc, qui a été élaboré il y a une quarantaine d'années au Québec par une association féministe qui s'appelle l'AFEAS, l'Association Féminine d'Éducation et d'Action Sociale. Donc le travail invisible, il s'agit de faire apparaître dans l'espace public tout ce travail non rémunéré qui est accompli le plus souvent par des femmes dans leur famille ou dans l'entreprise du conjoint, et le bénévolat en général aussi. Alors on qualifie ce travail d'invisible parce que sa valeur est généralement ignorée dans les comptes nationaux comme le produit intérieur brut. Donc en occultant cette contribution, ça lui permet, ni vu ni connu, de nier son importance.
Quel poids financier ça représente ?
Si cette énorme masse de travail reste invisible aux yeux des comptables qui nous gouvernent, elle n'en a pas moins un poids financier énorme. L'ONU évaluait en 1995 à 11 000 milliards de dollars américains la valeur du travail invisible non rémunéré des femmes à l'échelle mondiale. Alors, par exemple, en Inde, ce travail invisible, il est estimé à l'équivalent de 39% du PIB. Et il concerne notamment le transport de l'eau, la production agricole et artisanale qui est liée à la survie de la famille et qui est essentiellement effectuée par des femmes. Donc invisible, mais indispensable.
Et en France, alors ?
Alors, selon une enquête de l'INSEE qui a été publiée en 2012 et qui s'est concentrée uniquement sur les tâches domestiques, si cette activité était rétribuée au même titre qu'une activité professionnelle, elle compterait pour un tiers du PIB de la France, donc environ 300 milliards d'euros. Donc de quoi reprendre le slogan de la FEAS, le travail invisible, ça compte.
Et quelles sont les conséquences de cette invisibilisation du travail des femmes ?
Alors, les conséquences de ces logiques domestiques sont la dévalorisation des activités dans l'espace domestique, public et aussi professionnel des femmes. Elles contribuent à ce que les femmes intériorisent leur place de subordonnées. Et il y a ici une reproduction invisible d'un processus de domination qui les conduit à entériner le rapport inégalitaire où elles se trouvent.
Donc dans l'emploi également ?
Eh oui, même dans le salariat, les logiques domestiques s'infiltrent. Alors, il suffit de voir les nombreux emplois rémunérés, garde d'enfants, femmes de ménage, etc., qui sont une traduction directe de l'emploi domestique dans la sphère professionnelle. Et là, on tient une clé du non-changement. Parce que les domaines d'activité professionnelle ultra-féminisés, ils changent peu. Ces emplois sont peu rémunérés et peu valorisés, car ce travail est fait gratuitement par ailleurs, il était fait gratuitement par le passé, et donc on trouve normal de mal le payer. Et pourtant, en termes de pénibilité et d'utilité, eh ben, il mériterait d'être placé bien devant celui des actionnaires, par exemple. Et les inégalités du travail domestique, eh ben, elles servent encore à justifier les inégalités dans l'accès au travail visible pour les femmes, que ce soit à l'embauche ou pour accéder à un temps complet ou à des postes à responsabilité. Et puis même quand on embauche quelqu'un pour faire ce travail, quand on veut externaliser ce travail domestique, eh ben on reste dans l'exploitation économique des femmes et des personnes racisées, comme le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure.
Et bénévolat aussi, c'est du travail invisible ?
Oui. Le bénévolat, c'est l'autre face du travail invisible. Alors selon l'INSEE, il y a entre 12 et 14 millions de Français qui exercent une activité non rémunérée au sein de plus d'un million d'associations que compte l'Hexagone. Cette participation aux activités les plus diverses représente presque un million d'emplois équivalents temps plein. Donc ce travail bénévole, eh ben, il est majoritairement assuré par les retraités et par les demandeuses et les demandeurs d'emploi. Donc en fait, le travail invisible, il démontre que c'est la notion même de travail qui mériterait d'être travaillée.
Et maintenant, on va vous parler du revenu inconditionnel.
Oui, alors la création d'un projet sociétaire qui donne envie. Pourquoi on parle de ça ? Qu'est-ce qui nous donne envie à un projet ? Ben, il est usant de devoir se battre sur tout le front contre les lois travail, les nucléaires, les OGM, l'agriculture conventionnelle, des mouvements sexistes et racistes et toutes les autres inégalités sociales. Bon, comment créer un projet qui donne envie ? Envie parce qu'il ne s'agit pas uniquement de se battre pour ne pas faire bouffer, de se battre pour quelque chose de meilleur. Un projet qui fait rêver, un projet qui a des nombreux noms. Par exemple, revenu de base, salaire à vie, salaire universel, revenu universel, dividende universel, revenu social garanti, revenu de citoyenneté, revenu inconditionnel d'existence, dotation inconditionnelle d'autonomie, allocation universelle, revenu garanti, revenu optimum inconditionnel, revenu minimum inconditionnel, revenu universel de contribution.
Et si on doit définir vraiment le revenu inconditionnel ?
Alors, il s'agit de verser à chaque individu, dès sa naissance, à sa mort, et quelle que soit son activité, un revenu suffisant pour satisfaire ses besoins élémentaires, avec pour objectif d'éradiquer la pauvreté. Ça, c'est la définition que je trouvais dans un article de la Monde. Et sinon, il faut dire aussi, dans les revenus inconditionnels, on peut distinguer deux traditions, une tradition qui est plus communiste et l'autre libérale. Alors, de la tradition communiste, on peut dire l'idée principale, c'est un partage des richesses versus plus l'égalité et la justice en fait de la société. La tradition libérale, elle est plus dans une option. On peut peut-être comparer ça comme avec l'école, une égalité des chances. Ça veut dire qu'on donne les mêmes bases à tout le monde et le reste, il faut le mériter.
On va parler maintenant de Baptiste Milando et du revenu de base.
Oui, alors, Baptiste Milando, il est enseignant en économie et philosophie politique. Il se définit également comme décroissant. Et pour donner un exemple, il a écrit les livres précis d'utopie réaliste. Alors, le revenu de base, c'est un revenu inconditionnel pour tous et toutes, au nom de la contribution de tous et toutes à la création des richesses sociales. Et il repose sur une autre répartition des richesses. Il est versé à l'ensemble des résidents d'un État sans condition de ressources ni d'activité, sans contrepartie. Par exemple, comme c'est aujourd'hui le cas, bah pour mériter les RSA, il faut bien prouver qu'on est à la recherche d'un emploi. Ou pareil, il est versé sans obligation de réaliser une activité d'intérêt général, ça veut dire nettoyer les parcs ou des choses comme ça. Il est versé tout au long de la vie et depuis l'enfance. Le revenu de base est un système, on peut dire, avec un deuxième chèque. Le revenu inconditionnel peut être complété par un emploi et rémunéré en fonction de la pénibilité. Dans l'idéal, Baptiste Milando, il dit que dans l'idéal, ça sera qu'on partage les tâches pénibles avec toutes les personnes et qu'il n'y aurait pas des hiérarchies des salaires. Ce qu'il s'imagine, c'est un montant autour des 250 euros pour des mineurs et 1 000 euros par adulte. 1 000 euros, comme petit rappel, c'est le seuil de pauvreté actuel. Aujourd'hui, on dit qu'il faut que tout le monde ait un emploi, on va créer des emplois. Bon, finalement, le système économique a pour produit final l'emploi. On cherche de la croissance uniquement pour que tout le monde puisse bosser. Il y a une question à se poser. Est-ce que ça ne vaudra pas le coup de détruire les emplois? On a besoin de temps libre et la richesse sociale ne passe pas par l'emploi. C'est que dit Baptiste Milando.
Ah, mais on ne peut peut-être pas y arriver à ça tout de suite. Donc, quelle pourrait être la transition?
Alors, Baptiste Milando, il a réfléchi bien sûr aussi sur les transitions. Alors, il dit on pourrait commencer par augmenter tout simplement les RSA. Avec conditions des ressources, mais sans contrepartie.
Et revoir le système des intermittents du spectacle aussi, son seuil de nombre d'heures et des conditions d'accès différentes.
Effectivement. Alors, ce qu'il dit aussi, c'est que je me démarque de certaines démarches, augmentation progressive du montant, mise en place par tranche d'âge, en commençant par les enfants. À partir de là, on reconnaîtra la valeur du temps libéré. Ce n'est pas un temps pour consommer davantage. Il y a des choses dans le temps libéré qui sont utiles à la société. Tous ces petits pas changeront notre perception de la richesse de la société.
Et le revenu inconditionnel, on a peur que ce soit un danger néolibéral, en fait, puisque la droite en parle aussi.
Effectivement, le gouvernement de centre-droit envisage de verser à chaque citoyen finlandais un revenu de base de 800 euros sans considération de richesse ni d'âge. En contrepartie, toutes les prestations sociales seront supprimées. Il va être en expérimentation dans certaines régions marquées par un taux de chômage élevé et pourra être complété ou non avec un revenu soumis à la fiscalité générale. Donc la suppression des prestations sociales, ça implique tout un tas de choses. Ça implique le RSA, la prime pour l'emploi, les allocations familiales, la partie des retraites jusqu'au montant de base, l'allocation chômage, la santé. Donc, pour les maladies graves, toutes les personnes qui ne peuvent pas payer qui ont des problèmes de santé où ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont aucune aide. D'autres conséquences, c'est le salaire de base supprime la distinction activité-retraite, donc il n'y aura plus de retraite. Ça libéralise le fonctionnement du marché du travail. Et il y a le salaire de base sera revenu à la baisse. Ce qui cache derrière ce RSA amélioré, c'est que le gouvernement espère encourager la population à accepter plus facilement des petits emplois plus précaires, à temps partiel et moins bien payés. Et le revenu universel risque donc d'accentuer le rapport de domination entre employeurs et employés au détriment des seconds. De plus, l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation est l'un des facteurs clés de la dernière crise. Et redonner du pouvoir d'achat à ceux qui en manquent, d'accord, mais le revenu de base reste dans une logique consumériste avec des conséquences graves pour l'environnement.
Et la droite aussi, alors ?
Eh bien oui, alors il y a le revenu de base qui est aussi une proposition de droite. Il a été soutenu par Christine Boutin, Dominique de Villepin ou des économistes libéraux comme Milton Friedman dans les années 60 aux États-Unis. Alors pour la droite, ben l'intérêt c'est de rentabiliser des emplois qui seraient très peu payés. Chaque citoyen ayant avec le revenu de base un matelas de sécurité, donc il y a un gros risque de libéralisation sans complexe du travail, de fin du SMIC, de privatisation de la protection sociale, de la santé, de l'éducation, plus de retraite, etc. Baptiste Milondo, ce qu'il dit, c'est la droite veut mettre en place un revenu inconditionnel insuffisant. Donc tout le monde serait obligé de bosser pour un salaire de misère. Dans notre système, le revenu de base est suffisant pour accéder aux biens et services essentiels et pouvoir se passer durablement d'emploi. Alors, il y a un mouvement qui s'appelle le Mouvement pour un revenu de base et qui propose vraiment un RSA amélioré, donc qui sera distribué à tous et toutes sans condition, qui réglerait certains problèmes comme les difficultés administratives ou l'intrusion de la CAF dans la vie privée pour chercher les couples, ou la totale dépendance économique des femmes qui ne travaillent pas une fois qu'elles sont mariées. Et le montant de base qui est proposé, il est de 450 euros par mois et par personne. Donc c'est largement insuffisant. Hein. Ça ne, un revenu de base comme ça, ça ne permet pas du tout de lutter contre la pauvreté, ni de répartir les richesses. D'après l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, pour vivre décemment en France, il faut 1 400 euros pour un actif ou une active seule et 3 300 euros pour un couple avec deux enfants. Donc ça, c'est le revenu nécessaire pour échapper à l'exclusion en France et c'est un chiffre qui date d'octobre 2015. Donc voilà, on peut avoir peur qu'un revenu de base, finalement, ce soit quelques miettes qu'on donne pour faire taire les pauvres. S'il s'agirait d'acheter leur silence en échange d'une petite contribution qui ne règle pas les problèmes de fond, qui ne remet pas en cause le capitalisme, ni la propriété des moyens de production, ni la propriété des logements, la privatisation des services publics, etc. etc.
Et pour une petite touche d'humour, on va passer à Didier Super qui dédicace cette chanson à toute cette bande d'incompétents qui sont responsables de la crise économique et qui ne sont pas prêts de nous en sortir.
Empêche les autres de dormir.
Les gens qui bossent.
Mais qui c'est qui se gêne pas pour que les coches fassent des boums.
Les gens qui bossent.
Ils s'occuperaient de leurs enfants, il y aurait jamais de délinquants.
Les gens qui bossent.
Ils exploitent la planète, et puis tant pis si ça pète.
Les gens qui bossent. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh,
c'est que de la racaille.
Oh. Les gens qui bossent, oh,
pour les nettoyer au karcher. À cause de qui y'a que le dimanche qu'il y a les bons trucs à la télé.
Les gens qui bossent.
Qui c'est qui se dit vivement la retraite mais qui la touchera sûrement jamais.
Les gens qui bossent.
Qui c'est qu'on a marre de payer des allocs aux immigrés.
Les gens qui bossent.
Et surtout à cause de qui y a pas de boulot aujourd'hui.
Les gens qui bossent. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh,
ils sont égoïstes.
Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh,
heureusement y en a de moins en moins. Ah, et les dreadlocks, faut pas dormir hein.
Ils ont plus peur de dire tout haut que les chômeurs ils sont feignants. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents de pas être à leur place. Et puis tous les matins, ils prennent tous leur bagnole. Et du coup à cause d'eux, y'a la guerre en Irak. Oh, ah oh, oh, bah les gens qui bossent. Oh, ils ont vraiment rien d'autre à foutre. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, franchement y'a pas de quoi la ramener.
Vous êtes bien sur RCN 90.7 avec le collectif Debout, collectif féministe mixte nancéen et anticapitaliste. Et bien sûr, la chanson qu'on vient de vous passer, elle est à prendre au second degré. Hein, c'est humoristique, ça a pour but de montrer l'absurdité de dire que ce sont les chômeurs qui sont les responsables du chômage. Voilà. On va maintenant parler du salaire à vie. Et rapidement, peut-on rappeler ce que c'est que le salaire à vie ?
Oui, alors c'est le réseau Salariat qui propose de créer une cotisation sociale finançant la totalité du salaire. Donc l'idée, c'est qu'à 18 ans, chaque personne est dotée d'une qualification à vie inconditionnelle qui va avec un salaire à vie de 1500 ou 2000 euros par mois. En fait, au sein du réseau Salariat, certains penchent pour des niveaux de qualification et de salaire qui augmentent de 1500 à 6000 euros. Et d'autres, comme Minel, qui était notre invité lors de la précédente émission, préfèrent un salaire équitable pour tous. Donc 2000 euros pour tous. Dans tous les cas, ce droit au salaire sera accompagné du droit de copropriété d'usage de tous les outils de travail. Il n'y a donc plus besoin d'emploi, ni d'employeur, ni de propriété lucrative, ni d'actionnaire, ni de capital. Tout est géré par les salariés eux-mêmes. Et donc les salariés, ce seraient tous les majeurs.
Mais comment ça peut marcher, ça ?
Eh bien, en fait, ça marche déjà, à grande échelle. Puisqu'en France, nous produisons aujourd'hui l'essentiel de la santé et de l'éducation avec le salaire à vie, la copropriété d'usage et les subventions, puisque les caisses de sécurité sociale, qui sont entièrement financées par les salariés et qui représentent actuellement 18% du PIB, salarient déjà des millions de retraités, les soignants, les parents, sans profit ni marché du travail. Alors, ce que le réseau Salariat propose comme répartition de la valeur économique, c'est que les entreprises marchandes conservent 15% de la valeur ajoutée pour leur autofinancement, que le reste soit versé à des caisses de cotisation, 60% à une caisse de salaire qui paierait les salariés à vie, et 25% à une caisse de cotisation économique, dont une partie serait consacrée à la sécurité sociale, une autre partie au financement des services publics et à l'extension de la gratuité, et une partie au financement des investissements par subvention, pour pouvoir se passer des banques également.
Moi, j'ajoute quelques chiffres aussi pour encore expliquer les salaires à vie et ce que dit Bernard Friot sur ça. Alors, comme l'explique Bernard Friot, 12 millions de personnes sont déjà en situation de salaire à vie, 5 millions de fonctionnaires et 7 millions de retraités qui reçoivent déjà un salaire à vie. Sur 200 milliards d'euros produits par an, 700 milliards vont à des propriétaires. Et si on supprime la propriété lucrative, cette somme est récupérée dans une cotisation qui finance l'investissement. Alors ça, je trouve très important de savoir. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de propriétaires et du coup aussi plus des propriétés lucratives. C'est vraiment les piliers, on pourrait dire, du salaire à vie.
Et sinon, on va voir les différences et les points communs entre le revenu inconditionnel et salaire à vie. Donc, on ne va pas parler des arguments du revenu de base minimum proposé par la droite, hein, bien sûr. On va parler uniquement d'un revenu inconditionnel avec un montant conséquent, 1500 euros. Et on va voir donc les arguments qui sont défendus par tous les partisans du revenu inconditionnel.
Alors, les partisans des revenus inconditionnels, ils disent que une transition est... très probablement plus facile à mettre en place que l'idée du salaire à vie. Et ce qu'ils disent, les partisans en plus, c'est un revenu, c'est un dû. L'État les doit à ses habitants, à lui de trouver les financements. Voilà. Les financements, ça pourrait, par exemple, par une taxation du capital. Bon, reste la course à l'emploi pour ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, mais permet de vivre sans devoir accepter n'importe quel travail. Baptiste Milando, il dit « Il y a une chose qui me sépare de la proposition de Bernard Friot, c'est la question du montant. Un salaire moyen élevé offrirait une capacité de consommation supérieure aux capacités de renouvellement de la nature. On produit trop, on consomme trop. » Pas de différence selon compétence, contrairement au salaire à vie. Selon une certaine tendance du réseau Salariat, la rémunération selon évaluation de compétences avec quatre grilles des salaires de 2000 euros à 6000 euros, ça c'est rien à voir. Voilà. Et que les enfants ont revenu également, le salaire à vie ne dit rien au sujet aux enfants, s'il faut une revenu pour eux, ou, etc.
Et les arguments qui sont défendus par les partisans du salaire à vie ?
Alors déjà, il y a une différence qui est faite entre le revenu et le salaire. Donc ce qu'ils disent, c'est que nous ne sommes pas des êtres de besoin auxquels il faut subvenir par un revenu, puisque la notion de revenu trouve sa légitimité dans le droit de propriété lucrative. Donc au contraire, c'est pour montrer que nous sommes tous des producteurs de valeurs économiques. Donc ce n'est pas de l'assistance, mais c'est une rétribution contre un travail. Donc voilà, un revenu, c'est différent du salaire. Un grand point, c'est que c'est non cumulable. Le revenu inconditionnel, il peut être cumulé avec un deuxième chèque. Donc il confirme l'existence du marché du travail subordonné aux employeurs. Au contraire, avec le salaire à vie, l'idée, c'est de supprimer le marché de l'emploi et que les salariés gèrent eux-mêmes leur outil de travail sans employeur, sans propriétaire lucratif. Donc voilà, non cumulable. C'est le seul revenu, c'est le salaire à vie. Un autre point, c'est qu'il n'y a plus de propriété lucrative. Puisque un des risques du revenu inconditionnel, vu que la propriété lucrative n'est pas remise en question, les propriétaires, ils peuvent augmenter les loyers, le rapport de force ne change pas, et donc il y aura toujours besoin d'aide au logement, des difficultés pour accéder aux outils de travail, etc. Alors, un autre point aussi, c'est donc que le financement, il se fait à 100% par le travail. Alors que le revenu inconditionnel, il est financé par l'impôt, et a priori une taxation sur le capital, le salaire à vie, il est financé entièrement par la cotisation sociale, donc uniquement par le travail. L'idée, ce n'est pas de vouloir taxer le capital, c'est de supprimer le capital. Et un autre point, c'est ce qui concerne l'investissement, donc l'investissement qui se fait sans banque. Le revenu inconditionnel ne change rien au fonctionnement de l'investissement, au profit des banquiers. Et au contraire, pour le salaire à vie, la cotisation sociale, elle est doublée d'une cotisation économique pour financer l'investissement sans recours au crédit. Voilà les grandes différences.
Et sinon, les points communs ?
Alors, les points communs entre les revenus inconditionnels et les salaires à vie, c'est que tous les deux, les salaires à vie comme les revenus inconditionnels sont inconditionnels. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire la manche pour survivre. Et c'est aussi, c'est pas que un projet pour lutter contre les pauvres. Les RSA, dans quelque sorte, il est très stigmatisant parce que ça s'adresse qu'aux pauvres. Et les revenus inconditionnels et les salaires à vie s'adressent à tout le monde. C'est un droit individualisé et non parfouillé. Alors ça, c'est aussi, on n'a plus à prouver les couples, etc. Et il y a aussi une remise en cause des préjugés par les revenus inconditionnels et les salaires à vie. Les gens, cette préjugé que je parle, c'est les gens qui vont en profiter pour ne rien faire ou s'acheter de télé. Voilà, ça, c'est le discours des UMP, PSFN. Et pour détourner l'attention, on peut dire. Hein, voilà. Et cette préjugé, elle est mise en cause. Et c'est les points communs aussi, c'est que les deux projets, les revenus de base des Baptiste Milando et le salaire à vie, il ne s'agit pas qu'un salaire d'uniquement 400 euros, parce que 400 euros, ça ne suffit pas pour survivre. Et aussi, un point très important, il y a le maintien de la sécurité sociale, parce qu'on peut, sinon, il faudra que tout le monde s'assure en privé. Et je veux dire, si moi, par exemple, aujourd'hui, j'attrape un cancer, ça va me coûter très, très cher et c'est difficile sans soutien solidaire de la société pour se battre contre ça.
Il faudrait peut-être réfléchir aussi au fait que le plein emploi, c'est une chimère, tout simplement.
Alors, pour compléter sur le sujet et voir plus loin, je vous recommande une vidéo de la chaîne d'Annie Caligula qui explique la disparition du travail et la suite logique du progrès et du capitalisme. Donc, elle s'appelle « Pourquoi votre travail va disparaître ?» et est la troisième vidéo d'une série de quatre. Voilà, donc, proposition.
Et nous allons passer à la rubrique « Actualité ». « On va déjà vous parler de l'action des FEMEN. Hein. Comme chaque année, ces militantes féministes se sont rendues au lieu de rendez-vous du FN le 1er mai. Donc, c'était au centre de congrès à Paris pour leur banquet. Elles sont arrivées avec du champagne et des slogans qui étaient affichés sur leur poitrine, qui scandaient « fasciste, restez planqué » et qui criaient « vive la fin du FN ». Et bien entendu, fallait s'y attendre. Elles ont été rapidement plaquées au sol par la police. Elles ont été embarquées manu militari dans deux camionnettes. Donc elles n'ont même pas eu le temps de respirer, de souffler. Elles n'ont pas pu faire grand-chose puisqu'elles ont été victimes, comme beaucoup de gens, de la violence policière. Et en plus, les membres du FN ont hurlé qu'il fallait les mettre sous les roues des camions. Et la loi travail, le combat continue.
Oui, que dire que de rester vigilant et critique aux actualités et surtout pour suivre les luttes et les manifestations jusqu'au retrait total de la loi travail.
Et à Nancy, il y a un nid pour naître qui a été mis en place.
C'est exact. À Nancy, il y a un nid pour naître. Il s'agit d'une maison de naissance. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il y a une alternative des accouchements médicalisés, je veux dire un accouchement normal, entre guillemets normal, dans les hôpitaux. Parce qu'une maison de naissance, là, les mamans sont accompagnées par un binôme des sages-femmes. Ils connaissent les femmes avec qui ils vont accoucher. Et du coup, ils peuvent vraiment mettre en place un projet de naissance. Ça veut dire, projet de naissance, comment ils s'imaginent de faire naître leur enfant, par exemple, de les faire naître de l'eau, dans une grande baignoire, par exemple.
Et sinon, au mois de juin va se tenir la marche LGBTIQ+, hein, qui est à l'initiative du collectif Lorraine LGBT de Nancy. Le 4 juin 2016, dès midi, il y aura lieu un village associatif. Au niveau du cours Léopold, il y aura des activités diverses tout le week-end. Le rendez-vous pour la marche se tiendra à 14h au cours Léopold, pour un départ qui se fera à 15h et une arrivée à 17h30 place Charles III. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les activités qui vont être mises en place tout ce week-end-là, il faut aller voir sur le site du collectif LGBT Lorraine.
Et le même week-end, donc il y a un week-end anticapitaliste qui est organisé près de Bure. Donc c'est les 3, 4 et 5 juin en Meuse. C'est un week-end de mobilisation contre l'enfouissement des déchets radioactifs et aussi des rencontres anticapitalistes internationalistes. Donc ça se passe à Néoforge, le vendredi, le samedi, dans un chouette environnement naturel. Il y a de quoi se restaurer, de quoi poser des tentes, ou bien être hébergé chez l'habitant pour le week-end si besoin. C'est un week-end qui est organisé par les chorales révolutionnaires de la région, mais aussi toute la racaille gauchiste du secteur, écologiste, zadiste, anarcho-communiste et autres idéalistes, hein, comme se définissent. Alors le programme, donc le vendredi 3 juin, c'est accueil et soirée festive avec concert, donc sur le terrain à Néoforge. Le samedi 4 juin, répétition des chorales révolutionnaires et rencontre anticapitaliste avec débat et atelier toute la journée avec deux grands thèmes. Un, pourquoi luttons-nous, c'est-à-dire quelle meilleure société voulons-nous? Et deux, comment lutter? Par quels moyens? Et si c'est ce week-end qui a été choisi, c'est parce que le dimanche 5 juin, les associations écologistes organisent les 200 000 pas à Bure. Donc, c'est-à-dire, c'est une randonnée active autour du laboratoire d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. L'objectif, c'est d'envoyer un signal fort et massif pour dire qu'on ne veut pas de la méga poubelle atomique. CIGEO, Bure, et qu'il est encore temps de s'opposer à ce projet qui n'a pas été voté. Donc il s'agit d'agir maintenant, actif aujourd'hui plutôt que radioactif demain. Donc emmener de quoi faire du bruit, parce que nos vies valent plus que leurs profits nucléaires. Voilà, donc le dimanche 5 juin, une marche le matin et puis concert de chorale l'après-midi.
Et sinon, pour conclure, il faut revoir le travail qui persécute toujours les mêmes, la lutte des classes. Je croirais à la crise quand des riches commenceront à se suicider. C'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs sur la pancarte d'une jeune femme qui manifestait pour dire tant qu'il n'y aura pas de suicide en masse de tous ces gens milliardaires, ça voudra dire que l'argent, il est là, quoi.
Voilà, et puis ce qu'on a voulu dire aussi, c'est qu'il faut pas oser, faut vraiment oser revendiquer plus, quoi. Il s'agit pas toujours de défendre des acquis sociaux, mais il faut aussi vouloir plus parce que, voilà, on vit dans un chantage à l'emploi, dans une logique où on serait des assistés, etc. Alors que non, quand on regarde vraiment les choses, on a le droit à une vie digne et voilà.
Voilà, c'est ça. Si on avait tous un revenu inconditionnel, ça éviterait toutes ces femmes précaires qui risquent le viol, etc. Donc, c'est vraiment la touche d'espoir de se dire que si on mettait ça en place, y aurait plus d'égalité, plus de bonheur pour tous. Donc, vous étiez sur RCN 90.7 avec le collectif Debout, collectif féministe mixte nancéen et anticapitaliste.
À bientôt.
À bientôt.
Debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves, déprisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Nos entrailles.